pour investir, le déchiffrage.
Avec nous en plateau, Gustave Sanden de Colbert. Bonjour Gustave. Antoine. Et par le truchement des ondes, par vidéo, nous avons Tino Hugues du podcast de la Bourse. Merci d'être avec nous en direct ce matin, Tino.
Bonjour à tous.
Ouais, soyez le bienvenu. Je vous le disais, des puces comme s'il en pleuvait hein, sur les marchés. Les grandes nouvelles, c'est les semi-conducteurs. On a ces investissements massifs du côté de la Corée du Sud hein, qui se chiffre à 1000 milliards d'euros. Donc voilà, une barre symbolique, hein, une sorte de méga capi qui naît ex nihilo. Du côté de la Corée du Sud, bon, c'est clairement le marché qui fait la tendance en ce moment. On a un secteur, c'est les semi-conducteurs. On a une bourse, c'est la bourse de Séoul. Gustave, est-ce bien raisonnable tout ça? C'est la question qu'on se pose depuis des mois, mais là on se la pose d'autant plus.
États-Unis quand même, par la même occasion.
Oui, accessoirement. Mais enfin, ils fabriquent plutôt à Taïwan.
Accessoirement. Hein. Mais vous avez raison. Du coup, je regardais un petit chiffre, c'est quelle est la croissance finalement de ces valeurs sur les 14 derniers mois. Pourquoi ? Parce que c'était le plus comparable avec 2000. On a plus de 244% de valorisation sur les 14 derniers mois. C'est pas très long, c'est à peine plus d'une année. La dernière fois qu'on avait eu un niveau de cet ordre, c'était justement la crise de la bulle Internet. Et je sais pas si on l'a tant commenté que ça finalement, le fait que les semi-conducteurs avait été également ou avait bénéficié de cette spéculation de la bulle Internet, c'était plus de 234%. Voilà, donc 10 points d'écart, c'est peu ou prou la même chose. Ouais. Je dirais qu'il y a une grande différence quand même. Donc effectivement, la suite, elle a pas été très heureuse pour ceux qui avaient suivi cette tendance-là, parce que c'est moins 80% sur la bulle Internet, donc ça fait une belle correction. Mais il y a peut-être une différence. Je vous le disais hors antenne, ça me rappelle un parallèle avec le monde de l'immobilier et la promotion immobilière. Dans les grandes crises immobilières, notamment celle des années 90, on avait ce qu'on appelle de la construction spéculative, où on dit construire en blanc. Ça veut dire, j'ai pas de demande sécurisée, mais tout le monde a besoin d'immobilier, ou un narratif un peu simple comme ça. Et là, donc, on trouvera preneur. Ouais. La Chine en a fait des frais plus récemment.
Voilà, on se souvient de ces images de cités géantes vides, fantômes.
Et c'est un peu ce qui s'est passé sur cette première crise, en tout cas, la crise de la bulle Internet sur les semi-conducteurs, c'est-à-dire qu'on construisait à blanc. On n'avait pas bien estimé la demande, il n'y avait pas une demande avérée. On se disait juste, finalement, pour faire de l'Internet, il nous faut des semi-conducteurs, donc investissons dans les semi-conducteurs. Là, en l'occurrence, la grande différence, c'est qu'on a des carnets de commandes qui sont pleins. Carnets de commandes qui sont pleins.
Et qui sont peut-être même trop pleins.
Ça, c'est une question tout à fait légitime. La première étape, c'est quand même effectivement que vous avez de la demande, et une demande qui est effectivement assez largement compensé finalement par quelques acteurs, une poignée, toujours les mêmes, les hyperscalers, donc grosso modo les GAFAM plus Oracle, c'est 700 milliards de demandes sur 2026, et c'est aussi des entreprises, et là où on peut être un petit peu serein, c'est que c'est des entreprises qui ont les moyens de leurs ambitions. Faut pas l'oublier, c'est des entreprises qui ont un free cash flow, qui n'ont pas attendu l'IA pour gagner de l'argent.
Non, on est d'accord.
Donc c'est des entreprises qui utilisent aujourd'hui une grosse partie de leur free cash flow. Et si vous regardez l'évolution du free cash flow des hyperscalers sur les deux dernières années, on est grosso modo, sur ce petit panel-là, passé justement de près de 1 milliard de free cash flow à pas grand-chose, c'est-à-dire 150 milliards là estimés sur 2026. Donc on voit bien finalement d'où viennent ces flux. Mais pour ce qui est des semi-conducteurs spécifiquement et pour boucler la boucle, on voit qu'effectivement c'est très cher, c'est de plus en plus cher. Plus ça marche, plus c'est cher. Mais en revanche, il y a effectivement une demande en face. C'est quand même un point de différence important.
Il y a une demande. Maintenant, il y a deux écueils. Premièrement, le fait qu'on est en train de dépenser des fortunes et des capex absolument monstrueux, macroéconomiques, pour construire des data centers, de l'infrastructure, etc., qui peut être disrupté en deux coups de cuillère à peau, à savoir, vous voyez, le data center, là, on n'en a pas besoin parce qu'on arrive à faire exactement la même chose que vous, mais avec des composants de la taille d'une tête d'épingle. Ça s'appelle la disruption, c'est la loi de Moore. Il y a eu l'instant DeepSeek côté chinois, ça peut venir d'ailleurs. Il y a ce risque de disruption-là. Et puis il y a l'autre, celui que Microsoft, d'ailleurs c'est pas un hasard si le titre est un peu en délicatesse en ce moment, on a quand même un patron de Microsoft qui nous a dit « Vous avez intérêt à l'adopter l'IA, parce que moi j'ai une décennie de business derrière qui attend, et s'il n'y a pas d'adoption, là on risque une crevaison de bulle massive. » Donc il y a ces deux trucs qui pèsent sur un scénario qui paraîtrait idéal, techniquement idéal, et qui menace toujours.
Je pense qu'il y a, en fait, il y a eu un premier trade qui était IA point. Tout ce qui raconte de l'IA, voilà, ouais, ça montait. Mmh. Un deuxième trade qui était IA infrastructure plutôt. Mmh. Et je pense qu'il va falloir qu'il y ait plus de granularité dans les analyses. Dans ce que vous venez de dire, il y a pas mal de choses différentes. Les semi-conducteurs, a priori, c'est peut-être la matière première la moins difficile à disrupter, ouais, ou la moins stratégique à disrupter aussi. Mmh. En revanche, les grosses infrastructures, les infrastructures lourdes, mmh, c'est là que ça pourrait être très, très pénalisant. Voilà. Ouais.
Effectivement, puis on se souvient qu'il y a quelques décennies, il y avait eu aussi un boom de la DRAM, mais pareil, mais qui avait plus comme origine la téléphonie mobile, les renouvellements d'ordinateurs personnels et tout. Les prix avaient explosé, et puis les prix s'étaient totalement effondrés, et il y a eu des entreprises qui se sont fait rayer de la carte. Donc, il ne faut pas oublier ça. Tino Hugues, votre point de vue sur cette prépondérance du secteur des semi-conducteurs, je disais tout à l'heure, finalement, il en pleut tellement, on en a partout dans nos téléphones, nos ordinateurs, qu'on le veuille ou non, il y en a aussi dans nos portefeuilles boursiers. Et il faut se faire à une certaine forme de volatilité qui, des fois, peut être archi-violente, et notamment du côté de Wall Street ou du côté de la Bourse de Séoul. Quel est votre sentiment? Quel est votre regard là-dessus?
Ben, c'est intéressant parce que vous l'avez dit, vous avez parlé notamment de la Corée, hein, qui a subi beaucoup de volatilité là ces dernières semaines. Moi, j'ai envie de faire un petit focus sur Taïwan. Taïwan qui
c'est
est
là
devenu
que tout se fabrique aussi. Hein.
Ouais, et c'est devenu le cinquième plus grand marché actions au monde. Je rappelle que Taïwan, c'est 23 millions d'habitants. Alors, on pourrait se dire, quelle est la problématique finalement? Il n'y en a pas vraiment. La problématique pour moi de ça, c'est que la hausse du marché à Taïwan ne repose pas seulement sur les fondamentaux de l'IA et de semi-conducteurs. On observe qu'elle s'accompagne d'un retour massif du levier avec des prêts sur marge proches des records de la bulle Internet et qui ont d'ailleurs doublé sur un an glissant. Donc tout ceci vient aussi en complément et pousse donc un petit peu plus les cinq plus grands hyperscalers que sont Amazon, Google, Microsoft, Meta et même Oracle, qui devraient investir donc plus de 1000 milliards de dollars de CAPEX IA entre 2025 et 2026. Donc la problématique éventuelle pour ces sociétés, c'est d'investir à une vitesse en fait beaucoup plus rapide finalement que la progression de leurs profits, au point de réduire fortement les rachats d'actions pour financer cette course au data center. Donc ça ressemble un peu, moi je fais un peu le parallèle de ce qu'on a vécu notamment l'année dernière, cette espèce de course à l'armement où chaque géant finalement investit massivement parce qu'il a peur de se faire distancer et aucun ne peut se permettre, vous l'avez dit vous-même, de rater le super cycle. Mais ce qui peut pour moi devenir dangereux, c'est que si tout le monde investit en même temps dans le même secteur, ce secteur peut devenir surinvesti, et offrir des rendements décevant, en tout cas pas à la hauteur finalement des montants qui sont engagés. Voilà pour moi les craintes principales actuellement.
Ah oui, puis il y a aussi cette crainte de bulles, évidemment. Les bulles, ça crève toujours. Et on voit des grandes voix. Je lis la Banque des règlements internationaux, tiens, par exemple, qui s'inquiète d'un possible risque de bulle. On a Ludovic Subran, le chef économiste d'Allianz, qui vient très souvent à ce plateau, bon copain, qui nous dit, là, c'est même plus qu'on se pose la question, c'est qu'il y a une bulle. Faut pas appeler ça autrement. Une bulle, ça crève. Est-ce qu'il y a des amortisseurs derrière? C'est ça aussi la question pour l'ensemble des marchés.
Une bulle, ça crève, et ça crève quand? C'est toujours un peu la question. Ouais. C'est ça la question.
Puis à quelle vitesse aussi?
Qui vaut cher, et on sait à quel point ça coûte cher de rater les meilleures journées de bourse. Il n'y a pas si longtemps, on a eu quand même un super cycle de 9 semaines. Mmh. Des très belles journées de bourse, on en a connu encore cette année. Je pense que ce qui est dangereux dans toute révolution technologique, c'est d'opposer le risque de bulle ou les valorisations avec le choc finalement technologique qu'on observe.
Ouais.
Si on reprend les grands chocs technologiques des même 150 dernières années, les chemins de fer, est-ce que ça a changé le monde? Oui. Est-ce que c'était une bulle? Oui. Mmh. Internet, est-ce que ça a changé le monde? Oui. Est-ce que c'était une bulle? Oui. Etc. etc. On peut continuer longuement. Et donc, il y a une forme de narratif parfois qui, refuse ou réfute toute réflexion ou toute contestation des valeurs au profit finalement de la grande thèse de changement. On peut très bien être d'accord avec le fait que l'IA va nous révolutionner et considérer que c'est trop cher. Mmh. Et parmi les indicateurs, le plus récent, c'est probablement ou le meilleur exemple d'anecdote qu'on peut potentiellement raconter demain comme une bulle, c'est potentiellement l'IPO de SpaceX. Et notamment, je pense que si on regarde en termes de pure valorisation, c'est une entreprise, je le rappelle, qui perd de l'argent, hein, moins presque 5 milliards de dollars de résultats l'année dernière.
Et qui est désormais noté obligation spéculative maintenant.
Alors,
quand elle émet de la dette.
Qui est noté investment grade, mais qui trade comme une obligation spéculative.
Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, qui est noté par les marchés,
voilà,
on va dire.
Donc ça en dit,
comme
ça en
du
dit
super
AI. Non, ouais. Je parle même pas des multiples.
Ouais.
On est effectivement dans un schéma de forte tension. Les hyperscalers, ça y est, en fait, ils sont au maximum de leur capacitaire d'investissement. Mm. C'est-à-dire que il y a plus de réserve sur les carnets de commandes. Mm. Je disais, on est passé quasiment de 1000 milliards de capacité d'investissement à peine 100 milliards. Mm. Les free cash flow, ça y est, elles sont épuisées. Donc il y a pas de réserve. Et ce qui est un petit peu affolant, c'est que même si effectivement, typiquement, les producteurs de semis ont augmenté leur marge, ont eu des résultats extraordinaires, Nvidia plus 85 encore sur le T1, voilà, c'est tout le monde augmente ses marges. Mais en fait, le problème, c'est que le prix continue d'augmenter. Donc, malgré l'augmentation des marges, qui devrait baisser les multiples continuent d'augmenter en parallèle. Donc, effectivement, vous avez d'un côté les réserves de flux qui commencent à s'amenuire, et de l'autre des prix qui continuent de grimper, ce qui n'est pas un cocktail magnifique, le tout dans un contexte où effectivement les spreads sur le crédit sont très resserrés, et donc tout le monde se finance grosso modo à relativement bas coût, et ça pousse encore plus la spéculation, parce que c'est une course à l'armement. Mmh. Je reprends une anecdote de Jeff Bezos d'il y a à peu près un an, il disait il y a deux types de bulles, il y a les bulles inutiles et les bulles utiles. Et les bulles utiles, selon lui, c'est les bulles qui vont créer des chocs massifs d'investissement qui permettent des transformations technologiques majeures.
Ouais, d'accord.
Qu'on voit peut-être. Et les bulles inutiles, c'est peut-être celles qui jouent plutôt sur des FOMO ou des choses peut-être moins structurelles.
Ouais,
donc effectivement,
comprends.
Si Jeff Bezos nous parle de bulles utiles, il y a peut-être de quoi se poser des questions sur la valorisation de ces placements. En tout cas, nous, on est très attentifs chez Colbert à quand même poser des garde-fous aujourd'hui sur les marchés. Une allocation 100% action, sans aucun hedge dans ce marché-là, ça me paraît optimiste.
Oui, un petit peu, mais ça, en termes d'allocation d'actifs. Surtout que, Tino Hugues, vous êtes un bon copain de Michael Landreau, hein, qui vient nous voir assez souvent pour parler d'analyse technique. Justement, la technique, vous nous parliez justement des effets de marge, parce qu'énormément de ces positions sont prises, et notamment du côté des marchés asiatiques, via des effets de levier très très importants, ce qui provoque des turbulences à court terme qui touchent un petit peu le marché, et notamment Wall Street, on l'a vu ces dernières semaines. Est-ce que pour autant, on peut peut-être penser que du fait de sa moindre exposition à la tech et aux semi-conducteurs, quoique, hein, mais en termes de capitalisation, les marchés européens sont un petit peu à l'abri de cette volatilité et pourraient constituer justement une forme d'îlot de sécurité?
Ça peut, parce qu'en effet, vous avez raison, ce qui quelque part a provoqué la sous-performance des marchés européens ces derniers mois, je dirais presque même ces dernières années, peut être aussi ce qui va provoquer la résilience des marchés. D'autant plus que si le dollar continue à performer, peut-être que les marchés européens, qui sont peut-être plus équilibrés, plus cycliques, etc., pourraient redevenir des marchés, je vais pas dire de surperformance extrême, mais à minima de valeur un petit peu refus dans un fond de portefeuille. Ça, c'est évident. D'autant plus que dans le S&P 500, si vous voulez, parce que ce qui est quand même très intéressant, hein, c'est que lorsqu'on regarde les 7 magnifiques, sur les 7 magnifiques de mémoire sur les 18 derniers mois, il y en a que 2 qui ont fait mieux que le S&P 500. Seulement 2 qui sont de mémoire Google et Nvidia. Tout le reste a fait moins bien que le S&P 500. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez un indice, un ETF plutôt, qui s'appelle le XLK, qui est l'ETF en fait qui représente le secteur technologique à l'intérieur du S&P 500, qui fait 28% de plus de performance sur les 9 mois glissants que le S&P 500 lui-même. Donc ça, effectivement, c'est ce qui a engendré, vous avez raison, la surperformance ces dernières semaines, ces derniers mois, même peut-être ces dernières années. Mais c'est certainement aussi ce qui peut amener, on l'a vu aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, de la volatilité. Donc, voilà. Et pour revenir à ce que disait Gustave sur l'IA, c'est que ce qui peut paraître aujourd'hui contradictoire, si vous voulez, c'est que l'IA promet finalement de faire baisser les coûts de demain. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, elle fait monter déjà les tensions sur les semi-conducteurs, sur l'électricité, sur les data centers et sur beaucoup, beaucoup d'équipements industriels. Donc finalement, le paradoxe de l'IA, c'est que sa propre expansion sa propre explosion qui est réelle, qu'on constate, qui est puissante, eh ben finalement, ça pourrait devenir son propre frein. Parce qu'à force de te faire des demandes et d'exploser les demandes en puce, en mémoire, en énergie, elle pourrait même faire exploser les tensions inflationnistes et ralentir donc la dynamique finalement qu'elle a créée elle-même. Donc pour moi, vraiment, là où les marchés vont vraiment faire attention, c'est sur ces sujets-là dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Ouais. Gustave, je vous voyais acquiescer sur les effets prix. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de vue claire. Je vous dirais que soit Sam Altman, que soit le PDG d'Anthropic, ils n'ont pas plus de vue claire sur où ils vont. Mais sur les effets prix, ben là aussi, on a une forme d'opacité qui est quand même un petit peu paniquante pour les gens qui mettent les gros sous dedans. Quoi.
Je trouvais l'angle intéressant parce que finalement, si je devais le résumer de la manière dont je l'ai entendu, c'est finalement inflation industrielle, déflation servicielle. Parce que l'IA, tout de suite... c'est effectivement une baisse des coûts, a priori, dans l'industrie du service.
Mais
dans l'industrie...
l'industrie.
C'est plutôt effectivement une inflation, voire une forte inflation. Les hyperscalers, à la base, c'est des sociétés asset light. On se rappelle que Facebook, c'est une application mobile.
On se rappelle que Nvidia, c'est MSI à Taïwan qui fabrique leurs cartes graphiques.
Et là, on est plutôt là où l'impact industriel est fort, mais sur les modèles des hyperscalers, ou en tout cas comment on est arrivé là, et les free cash flow qui financent aujourd'hui cette expansion, c'était des activités asset light très génératrices de cash flow. Donc c'est un changement de paradigme sur la lecture de ces sociétés. Qui se transforment en fait, qui deviennent des players industriels alors que c'est à la base des sociétés servicielles.
On n'a pas fini de se poser des questions là-dessus.
Non, c'est
clair. Gustave Sonnen de Colbert, Tino Hugues du podcast de la Bourse, merci infiniment d'avoir été avec nous pour commenter l'actu du jour.